Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous allons vous parler de sujets un peu en dehors de l'économie, ça nous arrive.
Oh, bah oui, comme la semaine dernière, hein, avec le bon père là.
Oui, avec le bon père effectivement, je vous invite à aller regarder cette émission pour une fois qu'on y parle un peu de spiritualité. Et aujourd'hui, on a choisi de parler de deux sujets. Alors moi j'ai lu ce livre de Douglas Murray qui vient de sortir, qui s'appelle « Les démocraties et la mort » que je vais vous présenter, qui, comme son nom l'indique, est une partie de pêche, qui revient sur le massacre du 7 octobre en Israël, mais qui, plus généralement, pose aussi la question, effectivement, de civilisation. La question de civilisation, c'est aussi une question que Charles s'est posée dans un billet cette semaine en ayant relu Toynbee. Toynbee est un auteur formidable qui a marqué des générations. Et qui lui-même se posait la question de la façon dont définir le temps présent, son temps en tout cas. Et il se disait que pour ce faire, il ne fallait pas regarder les nations, parce que les nations, quelque part, s'effritaient, et que pour véritablement définir un temps, il fallait regarder les civilisations.
Et les religions,
bien évidemment.
L'espèce d'enchevêtrement. Ce qu'il disait un peu, c'est qu'il y avait des grandes civilisations, puis il y avait des périodes de troubles, et très souvent, les religions faisaient le lien entre une civilisation et la suivante. Ils prenaient ce qu'il y avait de bien dans ce qu'on trouvait bien dans la civilisation précédente, la religion, et puis on arrivait à la civilisation suivante. Et donc, c'est une façon de penser. Et j'ai toujours été fasciné par Toynbee parce que c'est un homme, donc je crois qu'il est mort en 1975, je crois, quelque chose comme ça. Et il a vécu toute sa vie, il a connu les deux guerres mondiales. Et pour lui, c'était un peu un signe d'écroulement de la civilisation européenne. Parce que on s'était toujours mis sur la gueule en Europe, mais si j'ose dire, dans des proportions raisonnables, tu vois. On allait se taper sur la gueule.
Enfin, 14-18, on avait commencé déjà un véritable 14-18, suicide
mais
de l'Europe.
Les deux guerres. Non, c'était le début du suicide, c'était le plus grand suicide.
Mais disons 1870 ou même Napoléonienne, il n'y avait pas eu
grand chose qui s'était passé. On n'avait pas massacré la moitié de la jeunesse française. Donc il s'est passé un phénomène de masse. Quand on a découvert l'industrie, on a trouvé aussi comment tuer les gens de façon industrielle, à la place de le faire qu'on le faisait avant de façon artisanale, ce qui était quand même un peu mieux. Donc il réfléchit et surtout il a consacré des pages à la façon dont les élites dans un pays sont censées répondre aux défis qui se posent à ces pays. Et alors il a une idée qui est assez forte, et que j'ai toujours constaté comme juste d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un défi qui se pose à un pays, ou à deux pays, par exemple la rivalité franco-allemande. Ça a été le grand défi qui a eu lieu de 1810, aller à peu près de Napoléon, jusqu'à 1945. Quoi. Donc, et ce qu'on a essayé de faire pendant très longtemps, les élites dans les deux pays ont essayé de résoudre ça sur le plan militaire, qu'un pays écrase l'autre. Quoi. Donc, bon, ce qui nous a beaucoup occupés. Et puis en 45, on s'est dit, bon, ben, c'est peut-être pas une bonne idée. On va essayer de trouver une solution où on va créer une superstructure européenne qui couvrira à la fois la France et l'Allemagne et qui permettra d'éviter ces conflits parce qu'il y aura un endroit d'arbitrage qui sera Bruxelles. Ce en quoi ils redécouvrent un peu ce qu'avait fait la papauté pendant des siècles, mais enfin, ça, c'est pas... Et donc, on a fait ça. L'Europe a été la solution au grand défi européen des deux siècles précédents. Tu vois, ça a été la solution, ça a bien marché. Et puis, il y a d'autres défis qui commencent à se présenter. Je ne sais pas, l'écroulement démographique, les immigrations, l'arrivée de la Chine, enfin plein de trucs. Et la seule chose que les élites européennes qui ont été formées à ça réussissent à faire, c'est de dire... Comme ça, on va faire plus d'Europe, parce que ça marchait la dernière fois. Donc ça va marcher cette fois-ci. Mais ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils prennent la solution qui avait été prise par les grands ancêtres. Et il y a aussi autre chose qui me fait rigoler, c'est que maintenant, je sais pas si tous les hommes politiques sont devenus gaullistes. Ils essaient de trouver les solutions de De Gaulle qui ont marché en 58 pour régler le problème de 2025. Tu vois, c'est C'est peut-être pas ça, il faut peut-être réfléchir.
Et mais il y a autre chose dont tu parles et dont parlait Toynbee, c'est que dans son appréciation de ce monde-là, de ce monde ancien, c'était aussi en 1054, l'opposition qu'il y avait eu entre, après le grand schisme, entre le monde occidental
et le monde oriental.
Et n'importe quel observateur de l'extérieur du temps jadis devait se dire, eh bien, bien évidemment, je ne paye pas un copec sur Rome et ça va être ce monde né de Constantinople qui
parce
va désormais...
Parce qu'il était organisé, il y avait un droit, il y avait une capitale, il y avait des provinces, tout marchait bien et tout et tout. Et quand on regarde la réalité, c'est le monde européen qui a gagné. Et alors la grande question, c'est pourquoi ? Et là, je fais un saut, même si c'est un peu... C'est parce que l'Europe chrétienne avait bâti des structures qui étaient antifragiles, pour reprendre l'idée de notre Libanais préféré.
En réalité, l'antifragilité, c'est une subsidiarité. Et la notion de subsidiarité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'école de Salamanque, que vous retrouvez...
Donc, il vient de l'Église. L'Église a été bâtie sur la subsidiarité.
Sur la subsidiarité, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire au niveau de votre paroisse, vous le faites au niveau de votre paroisse, et ensuite vous remontrez à l'archevêché, et ensuite...
L'archevêché, le cardinal, voilà. Et éventuellement Rome. Et donc, toute l'idée de cette idée de Bruxelles au départ, c'était de faire des machins un peu à la Suisse où tout part du bas. Et puis, grâce à Jean Monnet et aux fonctionnaires français.
Et à la CIA.
Et à la CIA, on a essayé de refaire Rome. C'est-à-dire de refaire une puissance centralisée. C'est-à-dire qu'à la place de tout part du bas, ce qui aurait très bien marché, on a fait que tout vient du haut. Et alors, quand je regarde nos élites aujourd'hui, je me souviens des élites françaises. De ma jeunesse, quand j'avais 20 ans. Par exemple, le maire d'Auch, qui était un local, hein, il était membre du Conseil d'État, et il était à la fois donc un local, mais il était au Conseil d'État à Paris, donc il était aussi... Donc la plupart des élites françaises venaient de la base et avaient une présence locale et une présence à Paris, mais ce qui leur donnait de la légitimité, c'était la présence locale, tu vois ce que je veux dire ? Mais en même temps, ils avaient une compétence, parce qu'il était conseiller d'État, donc il était respecté par tout le monde, c'était un homme très bien. Et aujourd'hui, quand je regarde nos élites, je me dis qu'elles ne viennent que du sommet. C'est-à-dire qu'ils ont fait un système avec l'ENA et tous ces trucs-là, où les gens sont sélectionnés au sommet, et de là dispense leur immense sagesse vers le bas, quoi. Ils n'ont plus aucune attache locale. Et je l'ai montré aussi en regardant une fois, ici, je crois, dans des émissions, où ces élites passaient leurs vacances. Ben, le maire d'Auch, il passait ses vacances à Auch, hein, tu vois, il ne se posait pas de questions, quoi. Il était... Tandis qu'aujourd'hui, tu vois que les gens, ou l'endroit où tous ces gens qui nous gouvernent passent leurs vacances, il y a l'île de Ré, hein, tu connais, il y a le bassin d'Arcachon. Il y a autour de Saint-Tropez, il y a un peu autour dans les montagnes là-bas, à Val d'Isère ou à Courchevel.
C'est l'hiver,
mais...
Sinon, c'est Ibiza, oui.
C'est Ibiza.
Marrakech.
Et donc, ils sont tous dans les mêmes endroits. Et la caractéristique de ces endroits, c'est qu'il n'y a plus de maison de famille, tu vois. C'est qu'autrefois, il y avait le type qui était là, souviens-toi de la maison de mes parents, il y avait les neveux, les nièces qui venaient, tout le monde venait, on était là. Et ça crée des familles fortes et des... Donc, on a une espèce... Cette élite, si j'ose dire, a fait exactement la même erreur que le roi à Versailles. C'est-à-dire qu'il y avait la noblesse qui était partout en France, et puis il a concentré les très grands nobles à Versailles, qui du coup considéraient les autres comme des bons à rien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une espèce de structure de noblesse à Paris qui ne vit et ne respire que parce qu'ils sont près du monarque. Et ça ne peut pas prendre des bonnes décisions. Donc on a transformé notre démocratie en une espèce de fausse démocratie où il y a une noblesse d'État qui gouverne des jurés, tu vois, parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi on met en cause, en demandant des élections, par exemple, ou des référendums, leur grande sagesse. Donc ces gens-là sont par définition incapables de répondre à des défis, puisque... Autrefois, il y avait quelques-uns de ces gars-là qui étaient dans l'armée, donc qui apprenaient à commander des hommes et à des situations difficiles, mais aujourd'hui, il n'aurait jamais rien arrivé. Et tu imagines pas Attal sortant de la tranchée avec toutes ses troupes derrière lui, quoi.
Non, tu n'imagines pas vraiment Attal sortant d'une tranchée.
Donc le vrai problème, c'est que partout en Europe, on a eu ce phénomène de concentration des élites autour d'une espèce de classe autoproclamée dirigeante. Et partout en Europe, les défis sont les mêmes, on ne les traite pas. Et partout en Europe, ça va très mal. Mais alors, les gens me disent, oh là là, là, j'ai été à deux ou trois trucs, des dîners en ville où je vais assez peu, mais enfin, j'ai été à un récemment, et tout le monde me dit, oh là là, ça va très mal et tout. Je leur dis, mais non, ça va pas très mal. Arrêtez de me casser les pieds. Ça va très bien partout. En Asie, ça pète le feu, merci, ça va bien. En Amérique latine, ça va très bien, partout. Ça va très mal chez nous, parce qu'on a des gens extraordinairement incompétents dans nos élites et qui refusent d'abord d'analyser les problèmes, même de les prendre en compte. C'est-à-dire, si tu dis qu'il y a un problème là, je sais pas, l'immigration par exemple, pendant des années, si tu disais qu'il y avait un problème qui était l'immigration, tu étais considéré comme... Enfin, tu puais les pieds, quoi. C'était,
bien sûr, oui.
C'était affreux. Donc, à partir du moment où tu as des problèmes monstrueux et que tu ne veux pas les regarder, tu ne veux pas les traiter.
Oui, bah oui, c'est la première des choses,
c'est de regarder les choses. Et c'est là où ce qu'a dit le bon père là, la semaine dernière était très intelligent, c'est qu'il a dit dans le fond il y a les platoniciens et les aristotéliciens. Les aristotéliciens, ils essayent de regarder la réalité pour la comprendre, et les platoniciens, ils se font une idée de la réalité, ils bâtissent une idéologie qui est complètement fermée sur elle-même. Et si tu dis bah votre idéologie là, elle prend pas en compte ça, ça et ça, tu pars en prison, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le platonicien, il ne veut pas discuter de son idéologie parce qu'il ne peut pas avoir tort.
Toute la logique de gauche est platonicienne. Exactement. Parce que quand tu reprends Rousseau, même dans l'idée de l'homme nouveau, et toute la gauche en général veut absolument partir du postulat que l'homme serait bon et que quelque part la société le pervertirait. C'est un peu...
Donc ça, déjà, c'est Bourdieu. Une idéologie.
Et déjà, c'est une idéologie. L'homme parce est bon. qu'il faut partir du principe que l'homme est globalement un être défaillant, relativement médiocre et capable de temps en temps de grandes choses, de temps en temps.
De temps en temps, et chez certains, et je sais pas, chez tous. Et donc, le but d'un système de sélection des élites, c'est dans le fond de sélectionner ces gars-là, qui ont un peu qui comprennent la réalité, et qui savent ce que c'est, si j'ose dire, que le bien commun et servir les autres. Alors, c'est plus du tout ce qu'on fait. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui en France, et des problèmes s'accumulent, parce que ce que disait Toynbee, qui était très fort, il disait, si les problèmes ne sont pas traités, ils reviennent sous une autre forme.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, s'ils ne sont toujours pas traités, il n'y a que trois solutions possibles. Soit il faut changer d'élite. Bon, ben c'est ce qu'en principe les élections faisaient, mais ne font plus. Soit ça détruit le pays, soit ça détruit la civilisation.
Alors, est-ce qu'on n'a pas aussi, dans ces cas-là, le principe de présomption fatale ? C'est-à-dire que, par définition, nos élites... vont devenir, si on pense à Hayek, de plus en plus
incompétentes. Elles le sont devenues, elles le sont par la méthode de sélection. C'est pour ça que quand tu regardes un pays comme la Suisse, dont je parle souvent, t'as un mal de chien à discerner les élites politiques en Suisse. Hein, parce qu'ils ont toujours refusé que leurs élites aient des tendances platoniciennes. Alors le Platon, ça n'intéresse pas les Suisses, quoi. Et donc, ils sont aristotéliciens. Mais donc on voit ça partout. Et la question, c'est bon, alors, regardez, la destruction d'un pays, ben, par exemple, vous pouvez penser à la Pologne, qui était quand même un très grand pays en Europe, une grande puissance, qui au XVIIe siècle a disparu, parce qu'il a été bouffé par la Russie, l'Autriche-Hongrie et la Prusse, je crois. Bon, il a disparu, puis il est revenu un siècle ou deux après. Mais regardez, dans les civilisations, vous avez les civilisations d'Amérique latine qui ont été complètement remplacées, et puis toutes les civilisations chrétiennes au Moyen-Orient, les Coptes qui sont les propriétaires de départ de l'Égypte, c'est curieux, comme personne ne s'intéresse à leur sort, alors que tout le monde s'intéresse au sort des Palestiniens qui auraient été les types de départ. Mais pour ce que je veux dire, c'est entre les Coptes et les Palestiniens, même combat, si j'ose dire. Donc pour ça, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui d'un refus de regarder la réalité, d'essayer de la traiter de la part de nos élites. Et ça, Ça veut dire que nos élites vont elles vont disparaître. Mais la question, c'est est-ce qu'elles vont nous entraîner avec nous dans cette disparition, avec elles dans cette disparition. C'est ça la vraie question. Et ça, je sais pas. Ça, c'est mais c'est le. C'est, on est aujourd'hui se joue peut-être le sort de la France et peut-être aussi le sort de la civilisation chrétienne qui a été en Europe. Quoi, tu vois, c'est peut-être tout. C'est peut-être ça qui est en train de se jouer. C'est pas simplement de remplacer. Monsieur Macron par Monsieur Philippe, tu vois, c'est pas vraiment le sujet intéressant, quoi.
Alors, ça amène une transition sur donc le livre que j'ai lu de Douglas Murray cette semaine, qui s'appelle donc La démocratie et la mort, Israël, l'islamisme et nous. Alors, Douglas Murray, c'est un journaliste et un essayiste qui écrit au New York Post, au Wall Street Journal, au Spectator, surtout. Il a écrit une trentaine d'ouvrages. C'est un journaliste aussi de terrain. À chaque fois qu'il y a des zones de conflit, il s'y rend. Il était en Ukraine. Et là, il a passé énormément de temps en Israël suite au 7 octobre. Il était déjà, je crois, relativement impliqué. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il est anglais. Donc, il n'est pas juif. Il est athée. Il est de confession à l'origine anglicane. Mais il est finalement athée.
Et il est homosexuel. Et d'ailleurs, il n'en fait pas une pendule, mais il dit simplement... Quand il y a des débats sur ces trucs-là, il dit, moi je suis homosexuel, puis passons à autre chose, quoi. C'est pas mon. Il en fait pas un titre de gloire ni un titre de honte, quoi. Mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un homme d'une culture extraordinaire et qui a publié des analyses depuis des années qui sont très très fortes. Et si je donne un conseil à un petit jeune de gauche et tout, si jamais il en a l'occasion, c'est jamais de débattre avec Douglas Murray, parce qu'il va se faire casser la tête en morceaux, parce que c'est un débatteur redoutable.
Alors, il analyse dans ce livre un petit peu l'origine de, pour lui, le pré 7 octobre. Oui. Hein. Alors, il dit
c'est
en fait
le 7 ou le 17 ?
Le 7. Le Nova Festival. Donc ça a commencé pour lui, enfin ça a commencé bien avant, mais il revient en tout cas sur le 31 janvier 79, un avion est parti pour l'aéroport Charles de Gaulle en direct de Téhéran. Dans cet avion se trouvait l'ayatollah Khomeini, un dignitaire chiite, fanatique, ayant vécu plus de 14 ans en exil, loin de son Iran natal. Son retour a marqué la fin du règne du Shah, pas la vie, et le tournant de la révolution islamique.
Et ça, tout ça a été fabriqué par... Carter aux États-Unis et Giscard d'Estaing en France, qui ont laissé de prospérer cet homme, alors que c'était à l'évidence un criminel.
Donc ensuite, les Américains le sont pris sur la bobine, puisqu'il y a eu, on s'en souviendra, la prise en otage de 52 citoyens américains.
À l'ambassade. Ce qui était déjà un crime contre la diplomatie.
Et ça commence un petit peu le terreau pour toutes ces revendications d'État islamique, de volonté, de penser un petit peu l'opposition à Israël de façon...
L'opposition à Israël, et ce qui est très curieux, parce que les Iraniens, historiquement...
sont des Perses.
Ça, d'abord, ils sont des Perses, puis ils étaient plutôt copains avec les Israéliens. Et c'est là que c'est avec l'ayatollah qu'on commence vraiment à diaboliser Israël comme la source de tous les malheurs de l'humanité. Quoi. C'est là que ça commence.
Et alors là, tu as déjà la théocratie iranienne qui commence à coloniser l'Irak d'après-guerre.
Ce qui est marrant, oui, mais d'abord la première des choses qu'ils font, c'est que... En Iran, il y a trois sortes de pouvoirs. Si tu veux, tu avais le pouvoir politique, tu avais le pouvoir théocratique, et tu avais ce qu'on appelait le pouvoir du souk, tu sais, les marchands, etc. Et il y avait pas mal de ces marchands qui étaient de gauche. Je te peux t'assurer que ils sont arrivés, ils ont soutenu l'ayatollah contre le pouvoir de l'empereur, mais... Ensuite, ils ont été liquidés avec une rapidité très forte, et en particulier tous ceux qui étaient communistes. Alors là, les communistes qui avaient soutenu, ils sont disparus à une allure, donc ça fait toujours rigoler. Quand je vois LFI en France qui dit on va faire alliance avec les nouveaux prolétaires, les musulmans, et une fois qu'on sera arrivé au pouvoir, on fera des bonnes choses tous les deux ensemble. La première des choses, les premiers qui seront liquidés seraient les LFI. Hein.
Turkeys for Thanksgiving.
Turkeys for, c'est-à-dire c'est les Danes qui votent pour l'arrivée de
les
Noël.
Les poulets pour KFC.
Oui.
Euh, Donc, même technique au Liban. Ils ont pris le contrôle des forces armées, de la police
et
à
là,
Beyrouth.
Il s'est passé un truc après au Liban, c'est qu'il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord le Septembre Noir, où les Palestiniens ont essayé de prendre le contrôle de la Jordanie, qui aurait dû leur appartenir d'ailleurs, puisqu'ils étaient une majorité contre. Et puis Hussein les a fait massacrer, donc il y en a un paquet qui sont arrivés au Liban, qui les a accueillis. Et là, si tu veux, cette arrivée de Palestiniens a complètement bouleversé l'ordre confessionnel du Liban, qui était les chiites, les sunnites et puis les chrétiens qui se démerdaient pour gouverner vaguement ensemble. Enfin, ça marchait à peu près. Et là, ils ont comblé ça, et en particulier, et c'est là que a commencé la guerre civile du Liban, quelques temps après, avec les Palestiniens, quoi, ça a été. Et à ce moment-là, vous avez eu le Fatah qui s'est installé, le Hezbollah, tout ça, et le Liban a cessé d'être un État souverain, quoi. Il y avait un État dans l'État qui était l'État qui était financé par l'Iran.
Et au Yémen, quand la guerre civile a éclaté en 2014, les mollahs iraniens aussi finançaient et armaient les milices houthis pendant la prise de contrôle du pays, tout en dénonçant l'impérialisme de l'Occident. C'est
non,
toujours.
Non, mais les Iraniens, ils se placent toujours dans le cadre de la Oumma, tous les musulmans ensemble. Donc quiconque intervient dans le monde musulman de l'extérieur n'a pas le droit, mais comme eux, ils en font partie, ils ont le droit. Quoi, tu vois, c'est quand même. Pourtant, ce sont des chiites, donc c'est pas bien vu.
Et donc. En réalité, l'auteur, dès le début, essaie de revenir sur l'histoire et sur ce qui a pu nourrir ce violent sentiment antisémite dès ce festival Nova et sur la création de cet antisémitisme de par le monde. Et bon, par exemple, en France, sur l'affaire Dreyfus et...
Oh, ça, c'était bien avant. Il y a eu... Comment dire ça ? Il y a eu une phrase terrible de Bernanos. Qui dit que Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Ce qui est une phrase affreuse, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais en France, ben, je sais pas, quand tu étais de Auch, tu détestais les gens de Tarbes, tu vois, qui étaient à 30 km. Hein, il y avait une espèce de. Même pas les Corses, si tu étais alsacien et tout, mais c'était une espèce de. Et il y avait de l'antisémitisme parce qu'ils étaient de nulle part.
En fait, il y avait un antisémitisme profond. Alors, il y avait deux antisémitismes. Il y avait l'antisémitisme pour les Juifs qui arrivaient d'Europe du Nord, entre guillemets, de Prusse, de Pologne et ainsi de suite, qu'on trouvait sales, pauvres et ainsi de suite. Donc, c'était toujours l'antisémitisme de l'étranger. Ils viennent avec des poux, ils vont manger nos poules.
Il y a eu des bagarres pas possibles quand les Italiens sont arrivés.
Quand les Italiens sont arrivés, les Portugais ensuite et ainsi de suite. C'est-à-dire, le nouvel arrivant est toujours bon. Et ensuite, il y avait l'antisémitisme contre les Rothschild, les forces de l'argent et ainsi de suite.
Mais ça, c'est arrivé.
On avait, à la fois peur, oui, on avait à la fois peur des Russes blancs, entre guillemets, enfin de ceux qui arrivaient de là-bas. Et,
mais l'antisémitisme, ça a été quelque chose qui a beaucoup existé en Allemagne, en Russie, il y a depuis toujours, mais par exemple en Italie, en France. Bon, ils agaçaient un peu, mais c'était pas. Je me souviens, l'un des premiers livres que j'ai lu sur la Shoah, c'était un livre qui avait été écrit par un juif, justement, et qui racontait que dans les années 35-40, il y avait des réfugiés qui s'étaient barrés d'Allemagne et qui étaient des juifs polonais ou des choses comme ça, qui étaient en France. Il y avait une manifestation antisémite en France. Ça s'appelle Le Dernier des Justes.
Je l'ai lu ce livre.
Tu l'as lu ce livre, il était très dur. Et à ce moment-là, il y a des.
C'est un nom comme Bernstein ou un nom.
Non, je ne sais plus comment il s'appelait, mais. Le Dernier des Justes. Et donc, il y a. Des antisémites qui manifestent, puis il y a une pauvre vieille dame juive qui essaye de partir en courant parce qu'elle était là, elle tombe. Alors, il y a des types de la. Manifestation, c'est lui qui raconte ça, type de la manifestation antisémite qui se précipite vers la vieille dame pour la relever, lui demander si elle avait pas mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas pour lui casser la gueule. Donc, il y avait des manifestations juives, mais quand elle voyait une vieille dame juive, ça paraît idiot ce que je veux dire. Mais il y avait une espèce d'antisémitisme culturel, parce que, bon, voilà, comme ça. Mais il y avait pas ce désir de se débarrasser des juifs physiquement, quoi. C'était, ce qui s'est passé en Allemagne est complètement incompréhensible.
Alors, il revient aussi sur la création d'Israël, donc en 48, Et dès l'instant où Israël avait repoussé l'invasion en 48, l'idée que les Juifs étaient capables de se défendre, mais étaient aussi capables d'imposer des frontières, est devenue visible pour les pays voisins. Il y a eu d'autres tentatives de rayer le pays de l'Alcarte en 67, en 73. Et puis après, ça s'est installé dans une sorte de guerre froide, jusqu'aux Jeux de Munich en 72. Et le groupe palestinien Septembre Noir, qui, rappelons-le, a tué donc 11 athlètes israéliens. Et là, à ce moment-là, Israël a mis en place ce qu'on appelait la colère de Dieu, c'est-à-dire que un par un, ils sont allés chercher tous les gars qui...
C'était une femme, je crois, c'était Golda Meir.
Voilà, et ils sont devenus maîtres dans quelque chose qu'on appelle le Rohum, qui est le renseignement d'origine humaine. Et pendant tout un temps, un par un, on est allé chercher, dans cette opération Colère de Dieu, tous les gens qui avaient été responsables de ces tueries de Munich. Et donc...
Alors, il s'est passé un phénomène curieux.
On a cru, surtout, longtemps, avant ce 7 octobre, peut-être à tort, que Israël gérait le Moyen-Orient.
Oui, que pas Israël qu'il gérait le Moyen-Orient, mais comprenait ce qui s'y passait.
Voilà, et était en amont des visions. C'est-à-dire, depuis cette idée de colère de Dieu, ainsi de suite, on se disait, les renseignements israéliens, ils sont là, le Mossad, il gère absolument tout, il fait son boulot. On ne peut pas bouger une oreille au Moyen-Orient sans que le papier, ils l'entendent
tomber
là-bas.
Et alors, il s'est passé un phénomène curieux, c'est que on détestait les Juifs, si j'ose dire, parce qu'ils étaient apatrides. Tu vois, on disait, ils peuvent pas...
Ils sont cosmopolites, citoyens du monde.
Il peut pas y avoir des bons Juifs français parce qu'ils sont d'abord Juifs, etc. Ce qui était une imbécilité parce qu'ils sont très bien fait tuer en 14 comme tout le monde. Et du côté allemand aussi. Donc, et puis à partir du moment où les Juifs ont eu des frontières, une patrie, une armée et qui se défendaient plutôt bien, on leur reproche
D'être nationaliste,
c'est-à-dire que l'existence d'Israël est un défi total à la construction européenne, puisqu'il n'y aura plus de patrie, plus de frontières, tout ça. Donc, ils apparaissaient comme une incongruité. C'était incroyable. Et on dit, donc tous les gars en Europe, tu peux pas être européen à Bruxelles et ne pas détester Israël, parce qu'ils sont exactement le contraire de tout ce que tu dis et le futur. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait les Juifs, pour une fois à la place d'être à la tête d'un mouvement, ils se sont retrouvés d'un seul coup.
Et ce que dit Douglas Murray, qui est parce qu'il a passé énormément de temps sur place, il y est tout le temps. Il dit c'est aussi très impressionnant parce que quand on parle, il dit j'étais dans un dîner avec une jeune fille et je lui dis qu'est-ce que tu fais? Elle était habillée en habit militaire, elle avait 23 ans et elle dit je suis chargée des renseignements miniers. Voilà. Et il disait mais c'est quand même incroyable parce que dans une période de temps où les jeunes ne trouvent plus leur place ou n'ont plus vraiment d'utilité, on se rend compte qu'on est au contact en Israël de gens qui s'intègrent dans une société, qui ont donc un but et qui servent un but commun, et tout en n'en tirant absolument aucune gloriole ou en essayant de... Voilà. Et cette imbrication dans un maillage de société, c'est quelque chose qu'on a peut-être aussi complètement perdu de vue.
C'est le livre qu'avait publié ce gars-là, que l'ancien rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, qui s'appelle, je crois, La mort du soldat, que j'ai lu il y a quelques années.
Paoli,
voilà. Et c'était très intéressant parce qu'il disait que toutes les sociétés ne fonctionnent finalement que s'il y a, non pas des militaires, mais des soldats qui sont là et qui défendent avec leur poitrine les gens qui sont à l'intérieur des murs. Quoi. C'est donc... Et il dit que toutes nos sociétés, depuis 1945, ont rendu ces soldats responsables des guerres, mais ce n'est pas le cas, parce qu'en général, ça ne les intéressait pas des masses, les guerres. Mais... Et donc, on cherche à abolir le soldat. Or, ce qui est amusant, c'est qu'Israël, dans sa structure, avec les guerres et les gens qui l'entouraient, qui étaient hostiles, a réinventé la notion de soldat. Et il y a même inclus les femmes, d'ailleurs. Ce qui était une nouveauté tout à fait extraordinaire. Donc, encore une fois, tu trouvais cette opposition entre Israël, où le soldat était un citoyen normal, mais il était soldat. Et puis, de l'autre côté, ces pays qui voulaient détruire le soldat. Et c'est très curieux. Donc, partout où tu vas, tu trouves que l'éthos d'Israël Logos d'Israël, c'était littéralement de prendre de contre-pied tout ce qui se faisait en Europe.
Et tout enfant qui sert Israël, on ira le chercher.
Oui.
Ça, c'est le deal.
Absolument, c'est le deal. Ben, un petit peu, si tu veux, c'est ce qu'on a vu aussi pendant toute l'Antiquité grecque, etc. C'est-à-dire que si tu faisais du mal à un Athénien, ben, t'avais Athènes sur le poil. Quoi. C'était pas... Donc, il y avait des droits très forts attachés à ta nationalité, ou à ta, qui existaient dans le monde ancien. Et là aussi, aujourd'hui, maintenant, tu regardes qu'en Europe, il n'y a plus aucun droit attaché à la citoyenneté européenne. Il n'y a que des devoirs. Tu as le devoir de payer pour ceux qui veulent rentrer à l'œil. Quoi. Mais il n'y a plus... Donc, dans le fond, une civilisation se définissait, pour reprendre ce que disait Toynbee, mais souvent par ses frontières.
Bien sûr.
Et comment tu défendais tes frontières, etc. Et est-ce que tes frontières se développaient? Tu essayais de piquer les autres pays ou pas? Comment? Et là, tu te rends compte qu'il y avait, dans le fond... Le projet d'Israël est complètement, totalement en opposition avec le projet européen, de civilisationnel européen, que la presse a pris, etc. Et donc, automatiquement, ça génère l'antisémitisme.
Bien sûr.
Ça ne peut pas être autrement.
Oui, alors, je n'avais pas fini tout à l'heure, mais il y avait aussi, j'avais oublié, dans la défense d'Israël, de parler du dôme de fer qui a eu lieu en mars 2011. Mais alors, le problème qu'on a vu avec ça, c'est que très vite, le Hamas s'est débrouillé pour, via la frontière égyptienne, faire rentrer des roquettes. Alors, ces roquettes s'appellent des Katyusha. C'est un système d'artillerie qui avait été développé par l'Union soviétique, qui sont faciles à transporter, elles sont faciles à cacher, et surtout, elles coûtent que 300 dollars, alors qu'une seule roquette antimissile dôme de fer coûte à peu près 100 000 dollars. Donc ça, ça a été un véritable problème au sud du Liban, d'avoir ces Hezbollah.
Il tirait toujours, et le Hezbollah était aussi terriblement financé par l'Iran, c'est-à-dire que...
Ah, bien sûr.
Et était installé dans des banlieues à Beyrouth, etc., ce qui faisait que c'était pas facile de le traiter militairement, parce que si tu faisais tomber l'immeuble, il y avait des enfants dans l'immeuble. Bon, là, il y avait des... Donc tout ça, c'est... En quelque sorte, Israël mène une campagne urbaine contre ses ennemis, et il n'y a rien de plus difficile que les campagnes urbaines, parce qu'il y a toujours des victimes annexes, quoi, de type qui était là, qui passait.
Alors, il rappelle, lui, donc il a passé aussi beaucoup de temps dans un kibbutz de Nir Oz, qui est à côté du festival Nova. Et bon, je ne pourrais pas rendre justice à ce qu'il a décrit, parce que d'abord, ce sont des témoignages, c'est extrêmement fort. Il y a des descriptions du massacre, des personnes qui se sont cachées dans des cachettes pendant toute une journée, mais qui ont entendu des gens être abattus, des gens qui s'étaient cachés dans les voitures, qui ont vu des gens être lâchés à côté d'eux.
Il y a 1700 personnes, 1500, je ne sais plus combien, qui sont mortes. Et c'était le plus gros pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les... Donc, alors là, il faut comprendre, évidemment, quand on lit les documents, en particulier d'origine palestinienne, etc., ils espéraient, à ce massacre, une réaction très forte d'Israël pour faire basculer l'opinion publique mondiale, en disant ils exagèrent, c'était voulu de leur part. C'est
deux
à dire...
choses. Un, Israël a effectivement considéré...
C'était une déclaration de guerre.
Non, mais considéré dans la première semaine, parce que les victimes ont été mises dans un hôpital et qui était derrière les terres. Et ils se sont dit, est-ce qu'on va tout de suite full blast dessus pour récupérer les gens? Le problème, c'est qu'ils savaient que aussi, la plupart du temps, c'est ce que fait le Hamas, c'est qu'ils partent par des souterrains et on ne retrouve pas les gens. Donc ils se sont dit, bon, on a un problème et c'est qu'on va perdre énormément de civils, on va avoir beaucoup de civils de notre côté, on va avoir des civils aussi de la population. population en face. Et finalement, ils ont dit, on va pas faire ça. Mais ça a été vraiment, vraiment pris. Le deuxième truc, et ça, Douglas Murray l'analyse très bien, c'est qu'il dit que l'opinion publique, dès le lendemain sur les campus américains, on commence à dire, il y avait eu des, même à Londres, il y a eu des trucs, Free Palestine, enfin, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le combat de l'opinion publique, alors même qu'on était devant un nouveau Bataclan, c'est-à-dire, c'est exactement.
Beaucoup,
non, mais beaucoup plus grand. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé?
Tu te remarquerais qu'on n'a rien fait pour le Bataclan. On a mis des petites bougies.
Oui, oui, bah, non, mais ça, c'est nous. Mais on parle quand même d'un festival, c'est-à-dire des gens, des civils.
Des musiciens.
Qui, la plupart du temps, sont relativement dépolitisés, puisque...
Et qui étaient pour beaucoup, même pas israéliens, c'était des juifs qui arrivaient de...
Oui, oui, de qui pouvaient arriver...
des États-Unis, de France, il y en a quelques-uns qui y sont passés.
Et
C'est-à-dire qu'ils ont décidé que tout juif aussi, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans cette campagne après, ce que j'ai trouvé très inquiétant, c'est que tout juif était automatiquement israélien.
Bon, il y a eu aussi les prises des postes frontières, il y a eu tout, si tu veux, il y a eu les gens du festival, mais quand ils sont rentrés et qu'ils ont pété le poste frontière, ainsi de suite, tout ça, ça a été décimé. Et le kibboutz qui était autour,
a été massacré.
Tout autant. Donc, il n'y a pas eu que les gens du festival. Et donc, comme je te disais, dès le soir du 7, il y a eu une grande masse de manifestants anti-Israël qui ont commencé à se rassembler, aussi bien à Times Square. Ça a donné des marches le 14 octobre. Il y a eu des marches anti-Israël à Toronto, à Vancouver, à Sydney, à Melbourne, à Johannesburg. Et donc, on peut se poser la question, c'est pourquoi la compassion du monde n'était pas dirigée vers les victimes du massacre, mais plutôt vers leurs responsables. D'où? Comment?
Parce que, si tu veux, ben, probablement une grosse partie de ces manifestations... Il y avait des... Mais c'est même pas sûr, parce qu'en France, il s'est passé la même chose.
Il y a quand même eu des civils qui étaient là, tranquillement, en train de faire leur vie.
Ils ont été massacrés, mais ça c'est un des grands mystères.
Et les gens disaient, ah bah c'est bien fait parce que vous comprenez Free Palestine.
Oui, et ça c'est un des grands mystères. Alors la réaction a été très brutale, il y a ce tas de choses qui s'est passé aussi à Gaza et tout, mais encore une fois... On peut pas s'empêcher de penser à la blague new-yorkaise, c'est que Jews is news. C'est-à-dire que si ça touche la judaïcité, à ce moment-là, on en parle. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, c'est que pendant que se passaient toutes ces horreurs, il y avait des chrétiens qui se faisaient massacrer au Soudan dans un nombre, il y en a eu, je sais plus combien, plusieurs centaines de milliers. Et que personne n'a dit un mot sur ça, c'était pas ça. Donc, il semble que le monde tienne Israël obligé de suivre un certain nombre de règles qui ne s'appliquent qu'à Israël, quoi. Parce que quand ça se passe ailleurs, personne ne dit rien, quoi. C'est un des, en tout cas, c'est un sujet extraordinairement difficile, mais on retrouve une fois encore cette incapacité de nos élites à prendre des positions claires. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de notre président, quand le massacre a eu lieu le 7 octobre, voilà, il a immédiatement pris parti pour Israël, etc. Et puis, une semaine après, il changeait d'avis parce qu'il avait vu les manifestations et qu'il trouvait que c'était pas porteur du point de vue électoral d'être pour Israël. Bon. Et donc, quand vous avez des hommes politiques comme ça qui sont suffisamment... flexibles, qui pensent en même temps, qui sont incapables de dire le bien et le mal, ben, la population est perdue, parce que ceux qui sont chargés de lui montrer le nord, lui montrent les quatre points cardinaux à la fois, et ils savent plus très bien où aller. Donc, on retrouve derrière ça, quand je vois la réaction des hommes politiques anglais, des hommes politiques français, des hommes politiques, les Allemands, ils étaient un peu emmerdés, parce que, pour des raisons que tout le monde comprendra. Mais en Hollande, ça n'a pas été beau. Donc là aussi, on voit l'émergence d'un phénomène, c'est que c'est... qui est tout à fait lié à René Girard et à toutes ses analyses sur les victimes, c'est que pendant longtemps, la victime, enfin le type qu'on mettait sur une croix, là, il était coupable.
Le bouc émissaire.
Voilà. Et puis d'un seul coup maintenant, depuis le Christ, on a mis un type sur une croix, et il n'était pas coupable du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, quand quelqu'un maintenant est condamné à quelque chose, il prend d'abord immédiatement la position de la victime innocente. Et du coup, aujourd'hui, dans le monde, dans notre monde, tous les criminels sont devenus innocents. Et donc, ça veut dire que ceux qui disent du mal des criminels sont coupables. Et tu le vois très bien dans notre système judiciaire aujourd'hui. Tu vois que le coupable, il a plein d'avantages, et que la pauvre victime, mais tu replaces ça dans le cadre Israël-Palestine, et tu vois que c'est exactement la même chose. Donc, on a décidé une fois pour toutes que celui qui perdait était celui qu'il fallait soutenir. Mais alors il aurait fallu soutenir les nazis en 40? Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, ils gagnaient, mais en 43, 44, ils étaient en train de perdre. Donc, cette espèce de divination du... On a remplacé le prolétaire des usines du 19e par le paysan palestinien en disant c'est lui qui a tous les...
Il
ne peut pas avoir tort.
Il y a aussi eu une jonction des luttes anticapitalistes et anticolonialistes d'une grande partie de la nouvelle gauche qui est allée vers ce mouvement de la Palestine depuis les années 50. Et les Verts qui s'y sont mis, regarde, on retrouve, comme par Greta Thunberg, dans les bateaux
pour parce que cette petite veut qu'on parle d'elle, ça c'est
terrible. Oui, non mais pourquoi cette lutte, pourquoi cette jonction, quelque part, Free Palestine et Vert, tu vois? Et c'est très fort en Allemagne. Et c'est très fort sur les campus américains. Oh, sur les campus américains, ça a été absolument extraordinaire.
Alors maintenant, ce que font les Américains, c'est qu'ils ont décidé que tous ceux qui sont mis dans ces luttes, Free Palestine, etc., et qui n'étaient pas d'origine américaine, ayant pris parti dans un débat politique aux États-Unis auquel ils n'avaient pas le droit de prendre parti, c'est ce qu'ils avaient signé quand ils étaient devenus étudiants, ils vont tous être virés.
Bah,
ça me paraît assez raisonnable. Mais ce que disait Schumpeter, que je trouvais très intelligent, c'est que le problème du capitalisme, c'est que ça permet un développement du niveau de vie très fort. Donc quand le niveau de vie monte, automatiquement, les gens demandent à ce qu'il y ait plus d'éducation pour tout le monde. Donc il y a beaucoup plus d'éducation. Et du coup, ça fait monter une classe de ce qu'il appelait les faux intellectuels, qui font des licences de sociologie ou je sais pas quoi, et qui se retrouvent arrivant en 27-30 ans, ayant fait 3 masters et 2 doctorats, employés chez McDonald's, parce que ce qu'ils ont fait, c'est rien. Sûr. Et donc, le drame du capitalisme, c'est que ça crée une classe de faux intellectuels qui deviennent tous socialistes, qui travaillent pour que ça marche plus, et ce qui fait effondrer le capitalisme. Donc le capitalisme trouve en lui-même sa propre destruction dans les intellectuels qui fait monter comme ça.
Qui n'en sont pas,
qui n'ont pas la capacité de l'être, qui, bon, normalement, il n'y a que 25% des gars qui peuvent l'être. Donc ce qu'on voit très bien aujourd'hui, c'est la montée, quand tu les vois à l'Assemblée nationale, tu les repères tous, c'est des gars qui n'ont pas de pensée, mais des slogans.
Et alors, une autre chose qu'analyse Douglas Murray, c'est quelque part le fait que l'antisémitisme soit protéiforme. C'est-à-dire pour lui, l'antisémitisme structurel chrétien, quelque part, n'a rien à voir avec l'antisémitisme islamique. C'est-à-dire que nous, on avait un antisémitisme qui, à l'origine, était né des religions, et puis arrive l'humanisme, on se dit, finalement, non, on peut plus trop détester les gens pour leur religion, ça se fait plus. Donc ensuite, on s'est dit, on va faire différemment, on va détester les gens pour leur race. Et puis après, on s'est dit, après le XXe siècle, on s'est dit non, on ne peut plus non plus faire ça, ça ne va plus trop être possible.
Et maintenant, on peut les détester parce qu'ils sont des colonialistes. C'est le dernier colonialisme.
C'est le dernier colonialisme. Mais l'anti-islamique juif...
Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est des colonialismes. Et on me dit, c'est très intéressant l'idée du colonialisme, mais il y a à peu près la moitié de la population qui sont des séfarades. Hein, et il y a à peu près 800-900 000 juifs qui existaient en Moyen-Orient, qui étaient Alexandrie, qui était une ville juive, au Caire, à Beyrouth... À Bagdad, où il y en avait un paquet, à Alep, où il y en avait un paquet et tout. Je crois que la plus vieille Torah au monde était à Alep. Et donc, tous ces gars-là se retrouvent en Israël. Et la question que je pose souvent à des gens au Moyen-Orient, c'est je leur dis, dites, musulmans, qu'est-ce que vous avez fait de vos juifs? Où ils sont? Ils n'en restent plus sur le rive sud de la Méditerranée. Il n'en reste plus que dans un endroit, c'est Israël. Et donc, ils n'étaient pas décolonisés, c'était des colonisateurs. Ils ont été virés de là où ils étaient arrivés 2000 ans avant les Arabes. Donc, il y a quand même un vrai problème, c'est qu'on...
T'avais beaucoup de juifs en Espagne.
Il y avait beaucoup de juifs.
Il y avait d'ailleurs une langue.
Oui, une langue, l'arabo-espagnol. Et ils étaient tous partis à Constantinople, puis de là ils sont allés un petit peu à Amsterdam. Mais il y avait deux sortes de juifs, les Ashkenaz qui sont chez nous, qui étaient en Alsace, etc. C'était les grands intellectuels, les Raymond Aron. Et puis il y avait les gars qui arrivaient d'Afrique du Nord, qui sont des Sépharades, qui font plutôt
c'est-à-dire ceux qui sont forcés de bouffer de la galante fish et les autres.
Voilà, ceux qui sont pour eux, ils bouffent de la carpe farcie, là, c'est vraiment...
Ça fait des vies difficiles.
Ça fait des vies très difficiles. De la carpe farcie, puis il y a aussi autre chose qui est dégueulasse, je sais plus quoi. Mais enfin,
À peu près tout.
Par contre, quand tu vas bouffer chez un séfarade, c'est très bon.
Ouais.
Alors là, faut pas déconner, c'est une nourriture méditerranéenne qui est très bonne. Bon. Donc tout ça pour dire, vous savez, moi je me marre toujours, mais c'est pas sérieux. Je suis pas un être sérieux, finalement. La meilleure définition de l'antisémitisme que j'ai connue, c'était celle de... du grand rabbin anglais d'Angleterre pendant les années Thatcher. On lui demandait, je l'adorais, il était tellement malin, il était marrant, il a écrit des trucs sur la morale aussi qui étaient remarquables. Et on lui demandait qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, il avait dit être antisémite c'est détester les juifs plus qu'il n'est normal. Et je me dis, il n'y a qu'un anglais pour dire une connerie comme ça. Mais c'est
un rabbin. Douglas Murray reprend une citation, une réflexion de Vassili Grossman dans Vie et Destin, qui explore donc les parts sombres du XXe siècle de Stalingrad au camp de la mort. Et alors, je vais te dire cette réflexion. L'antisémitisme est toujours un moyen et non une fin. Il est la mesure des contradictions encore non résolues. Il est le miroir des faiblesses des individus, des structures sociales et des systèmes étatiques. Dites-moi de quoi vous accusez les juifs, je vous dirai de quoi vous êtes coupable. C'est-à-dire, il y a une forme, en réalité, de ce qu'on appelle en psychologie de projection.
Mais c'est-à-dire que si t'as, imagine, le capitalisme, on te dit, tout vous est possible, tout va réussir, et puis t'as une vie de merde, tu t'en sors pas, etc. Il faut bien que tu trouves un coupable. Ça peut pas être toi, tu t'es pas décarcassé, tu t'es pas fendu, t'as pas fait d'effort, etc. Donc tu vas dire, ces salopards, ils ont réussi parce qu'ils se parlent entre eux et qu'ils se choisissent entre eux. Donc, c'est encore une fois la recherche du bouc émissaire. C'est-à-dire que moi qui suis un être parfait, comment ça se fait que je réussisse pas? Ben, c'est qu'il y a des forces obscures qui m'empêchent de réussir, quoi. C'est terrible, ça, parce que, quelque part, si j'ose dire, juif, aujourd'hui, ou homme blanc, c'est quasiment la même condamnation. On te dit homme blanc ou juif, c'est... Moi, je vois pas très bien la différence entre les deux, quoi. Et quand je vais dans les dîners en ville, encore une fois, ce que je fais de moins en moins, y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a des mots codés. Mmh. Et le mot codé pour juif en France, c'est banquier. Alors, on va dire un mal fou des banques, et tout le monde autour de la table comprendra que... On sait de quoi on parle, n'est-ce pas ? Et je trouve ça très curieux, parce que ça dissimule une espèce de... Pourtant, ces gens ne sont pas des gens qui n'ont pas bien réussi, ces gens avec qui je vais dîner et tout, c'est...
Donc... Mais il reste toujours un vieux fond maurassien.
Oui,
d'antisémitisme structurel en France. Mais bon, tant que c'est...
Et je crois que quelque part, il y a beaucoup de gens qui en veulent à l'Église d'avoir des origines juives. Parce que je sens ça partout, si tu veux, c'est qu'on dit oui, mais... Les Grecs, c'était mieux, quoi.
Ah, oui, bah, il ne fallait pas perdre à Constantinople.
C'est un sujet difficile qu'on traite aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ce que je voudrais dire, qu'on essaye de dire que on essaye de comprendre non pas ce qui s'est passé, de trouver une explication, trouver des excuses, trouver des coupables. On essaye de comprendre quelle a été la réaction des médias, de l'opinion publique, un truc qui était quand même très 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 puissant.
Et alors, c'est exactement la question que se pose toujours Douglas Murray par rapport aux États-Unis. Il dit quand même qu'il a été profondément choqué, bon, évidemment par le traitement des universités et ainsi de suite, mais au-delà de ça, du fait que les gens soient restés aussi amorphes. Alors, pour lui, il a une analyse du politologue américain qui est Robert Kagan, depuis la puissance et la faiblesse. Et pour lui, l'Europe et les États-Unis se sont éloignés après la Seconde Guerre mondiale, parce que les États-Unis sont enfermés dans une logique que désormais les guerres appartenaient au passé et que le continent accéder à ce qu'Emmanuel Kant a appelé un état de paix perpétuel.
Le pâle qu'a fait Kant.
Voilà. Et bon, même si aujourd'hui l'Ukraine pourrait avoir changé en partie la pensée européenne, quand apparemment on pose la question à des jeunes Américains du fait de « seriez-vous prêts à vous battre pour votre pays si votre pays était envahi ?», les jeunes Américains disent non pour plus de la moitié. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent même pas...
C'est la mort du soldat.
De pouvoir être envahis sur leur territoire, ce que nous, en Europe, nous intégrons...
On a l'habitude.
Nous intégrons à peu près bien. Et,
mais c'est pas pour ça qu'on va se battre.
Donc au total, seuls 55% des Américains resteraient et se battraient. Et tu fais ce sondage en Grande-Bretagne, sur les 18-40 ans, la grande majorité ne se battrait pas non plus.
Ça, j'en doute, parce que je connais mes Anglais, ayant vécu 25 ans.
Si c'est des Français, ils leur taperaient peut-être dessus.
Si c'était des Français, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est là où les Anglais sont pas très bons, c'est pour les... Mais si, ils sont très bien tapés sur les Irlandais, sur les Gallois, sur les Écossais. Donc, quand on me dit que les Anglais sont pas prêts à taper, j'ai un petit moment de... J'ai des doutes, là.
Et dans son dernier chapitre, il y a des choses très émouvantes, encore une fois, de Glasse-Morey. Si vous avez envie de lire des témoignages, je vous invite à lire ce livre. Il dit quelque part, le prix qu'ont les Israéliens à payer, c'est peut-être le prix pour être aussi près de Dieu. Il dit certainement, c'est pas la même chose de dire quand tu es sur place à quelqu'un, vous tournez à droite sur Edgware Road ou vous tournez à droite sur la Via Dolorosa. Quelque part, est-ce que... Alors là, il se place dans un...
C'est très gênant.
Tu vois. Et il est certain, pour qui est allé en Terre Sainte, qu'on ressent une émotion sur place. C'est l'endroit où Dieu a parlé.
Les Israéliens ne croient pas, mais... parce qu'ils sont juifs. Mais enfin, il y a les prophètes.
Il a parlé dans le désert, il a parlé...
Il a parlé, mais ça, c'était dans le Sinaï. Israël, c'est l'endroit... c'est l'endroit où le peuple élu est allé, d'accord. Mais pour nous, c'est l'endroit où la chrétienté est allée, puis l'endroit où Mohamed est parti se faire enterrer. Donc, le problème d'Israël, de Jérusalem, c'est que... Ça appartient à beaucoup d'imaginaire, quoi. Mais en fait, c'est le seul endroit où il y a encore le nombre de chrétiens qui augmente, quoi, au Moyen-Orient, parce que ça, on n'en parle pas, mais il y a aussi une purification ethnique au Moyen-Orient qui s'est passée contre les chrétiens, contre les juifs, qui n'a pas été triste. Alors que le Moyen-Orient de mon enfance, quand je suis né en Syrie, je crois que la moitié de la population d'Alep était chrétienne, il devait y avoir 10% de juifs. Donc c'était un endroit où les Turcs avaient permis une espèce de mosaïque de religions qui réussissait à peu près. Et puis quand il y avait une religion qui commençait à emmerder les autres, les Turcs tapaient sur tout le monde à tout hasard. Et donc,
et sur certains en particulier.
Sur certains, mais en général, les Turcs, ils n'étaient pas...
On l'a vu,
ils sont assez robustes dans leur répression. Et donc, ils ont maintenu avec assez peu de troupes cette espèce de disparité au Moyen-Orient qui faisait la force du Moyen-Orient. C'est-à-dire que, un peu comme l'Europe, dans ce que j'explique dans Toynbee, c'est qu'il y avait des tas de communautés qui vivaient ensemble, plus ou moins bien, mais qui étaient très différentes. Donc, ça aurait pu faire un boom extraordinaire. S'ils avaient un pouvoir politique et des religions différentes et qu'ils réussissaient à plus ou moins, ça aurait marché. Mais non, ils n'ont pas réussi. Ça a raté. Et là, j'ai écrit un papier il y a longtemps qui s'appelait « Ode à un Moyen-Orient défunt ». Six mois après, il y avait des types qui m'en parlaient au consulat français à Hong Kong, qui l'avaient lu. Donc, il y avait au Moyen-Orient une espèce de diversité de population, de diversité de religion qui était quasiment intenable. Parce que tout le monde... Et ça a tenu pendant quelques siècles. Et puis maintenant, c'est en train de devenir complètement musulman, quoi. Et Israël, là-dedans, apparaît comme une mouche dans du lait, quoi.
Alors, pour résumer Israël, il a cette citation « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction ». Et c'est un peu ce que tu dois accepter si tu décides de vivre en Israël. Et en conclusion de son livre, il raconte cette histoire qu'il était en Ukraine, toujours en tant que reporter de guerre. Et il disait que dans cette sorte d'hôtel, hôpital, tous les correspondants de guerre et tous les soldats sortaient pour fumer, alors qu'ils pouvaient se prendre une bombe sur le coin de la bobine absolument toutes les heures.
Ah oui, j'ai envie de fumer, hein.
Oui, mais que c'était un peu leur rattachement à la civilisation de se dire il y a des règles et on respecte la vie. Et parce qu'on respecte la vie, on sort pour fumer et on ne fume pas à l'intérieur parce que telles sont les règles que nous nous sommes données pour vivre en commun. Et il disait que pendant que eux s'astreignaient à ce genre de règles, dans un endroit où pourtant la civilisation avait l'air d'avoir fui depuis un moment, ils recevaient des dépêches depuis les États-Unis où tout le monde s'écharpait pour savoir quelle était la date limite de l'avortement. Et combien ces débats lui paraissaient tellement déconcertants alors que lui-même choisissait la vie, choisissait de la civilisation. Et que toute une partie du monde choisit son retour de discuter.
C'est intéressant cette fin, parce que ce qu'il est en train de dire finalement, c'est que aujourd'hui, ce qu'on a souvent dit ici, ce pouvoir politique, là, ces élites, ont choisi la civilisation de la mort. C'est ce que disait Jean-Paul II.
C'est exactement sa fin.
C'est exactement sa fin. Ils ont choisi. Et donc, la question, c'est est-ce qu'Israël a choisi la civilisation de la vie ?
C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui revient du Décatonome aussi, c'est toujours choisir la vie.
Toujours choisir la vie.
Et pour lui, une peuple ou une civilisation qui choisit la vie
doit être préférée.
C'est elle qui gagne.
C'est elle qui...
Et nous, nos civilisations choisissons la mort, il ne le dit pas, mais c'est ce que tu dis. Quand tu dis que tu choisis, que tu parles de l'euthanasie et que tu parles de la date à laquelle tu dois avoir ou non l'avortement, hein.
Moment, on ne fait plus d'enfants.
Peut-être que si, au travers de ce prisme, tu regardes le livre, tu comprends cette dichotomie. Est-ce qu'en réalité, si on se rattache à la conversation qu'on a eue avec le prêtre l'autre jour, ce n'est pas aussi une opposition entre les civilisations du bien et les civilisations du mal ?
Ou plutôt entre une idéologie et un truc aristotélicien. C'est-à-dire que si l'idéologie, tu décides que les juifs sont un mal en eux-mêmes, si tu veux, ou que l'homme blanc est un mal en eux-mêmes qui ne peut pas être guéri, parce qu'il est raciste, parce qu'il est violent, etc. Bon, à ce moment-là, si tu acceptes cette idéologie, tu acceptes qu'il doit être détruit, puisqu'il est un mal en lui-même. Et donc, la question, c'est est-ce que, dans le fond, et je ne sais pas du tout, hein, est-ce que dans le fond, il y a cette haine d'Israël n'est pas la forme d'une idéologie de la mort, quoi, parce que eux, ils revendiquent leur droit à l'existence. C'est ça. C'est très compliqué, toutes ces histoires-là, mais en même temps, je suis sûr qu'on va heurter des tas de gens dans tout ce qu'on a dit, mais...
La plupart du temps, je modère des partis, et dès qu'on touche le sujet d'Israël, je sais que je vais prendre, ça y est, Charles Gaff s'est vendu au sionisme, il a pris son chèque d'Israël.
On attend le chèque, mais il n'arrive jamais.
Voilà, bon, allez-y, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
Avant de condamner ce qu'on essaye de faire ici, vous devriez d'abord essayer de comprendre... Parce que ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'il s'est passé un drame épouvantable au Moyen-Orient, il se passe un drame épouvantable en Russie également, etc. Et les condamnations vont bon train, mais il y a assez peu d'analyses qui sont faites pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Ça me rappelle un peu la guerre de 14-18, où on allait gaiement se faire tuer parce que les Boches étaient méchants. Mais en même temps, une fois qu'on a tué 2 millions de Français et 2,5 millions d'Allemands...
On n'était pas plus avancés.
On n'était pas plus avancés. Donc, encore une fois, plutôt que de nous condamner, essayer de faire le chemin qu'on fait, c'est-à-dire d'aller vers la compréhension et non pas vers la condamnation instantanée, parce que c'est pas une bonne idée, quoi.
Donc voilà, ce livre, Les démocraties et la mort, qui est numéro 1 des ventes en Angleterre, qui est sorti donc chez l'édition L'Artilleur. Si vous avez envie d'en savoir plus sur
et d'avoir un avis différent d'un homme éminent, d'un homme qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup, qui cherche à comprendre. C'est un grand reporter, mais c'est aussi un grand intellectuel. Il fait partie de cette classe d'intellectuels anglais que j'aime tellement. Tu sais, qui est ces gens comme Burke, là, les Burkeens, c'est-à-dire des gars qui sont. Rien de mal ne peut arriver à un pays si les hommes d'honneur se lèvent à temps. Et lui, c'est un homme d'honneur qui se lève à temps. Alors, vous êtes peut-être pas d'accord avec les raisons pour lesquelles il se lève. Mais au moins, il s'engage, il explique. Il n'utilise pas l'argument d'autorité pour condamner.
Ni le pathos. De fait, il y a un certain pathos, puisque quand il relate ce qui s'est passé, mais ça, il y aura un pathos si on relatait aussi, d'ailleurs il en parle, le Bataclan, à partir du moment où vous décrivez, mais il essaie de le faire avec le moins d'emphase possible et le plus de retenue possible. Mais force est de constater que quand on raconte des choses horribles, elles sont horribles.
On comprend aussi pourquoi il y a eu cette réaction extraordinairement violente des Israéliens, parce que
quand on lit certaines choses, on se dit que c'était limite mesuré, parce que franchement... Ouais.
Voilà, donc ça fait partie de ce qu'on fait de temps en temps à l'Institut des Libertés, où on débat d'un truc, et on ne sait pas du tout qui a raison, qui a tort et tout, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut essayer de c'est un effort de compréhension, c'est pas un effort de condamnation. Et voilà, donc l'Institut des Libertés reste dans son domaine, qui est de vous permettre de réfléchir librement et voilà. De ne pas être d'accord avec nous.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Merci.